Radio Kapi. Oh, Kapi.
Poursuite des affrontements entre la FRDC et les rebelles du M23 dans le territoire de Rutshuru. Le M23 garde toujours ses positions conquises hier vendredi, mais le porte-parole de Sokola 1 FRDC promet de faire le point de la situation dans les heures qui suivent. Le gouvernement entend prendre des mesures adéquates pour juguler la situation de la pénurie du carburant à la pompe en RDC. Ceci ressort du Conseil des ministres qui s'est tenu hier vendredi ici à Kinshasa. Enfin, notre invitée dans cette édition du journal, c'est Madame Gisèle Ndaya-Lousteba. Elle est ministre du Genre, Famille et Enfants. Elle nous fera le bilan des activités organisées à l'occasion du mois de la femme après sa mission en Mbujimayi au Kassai Oriental. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Au Nord Kivu, les affrontements entre FRDC et le M23 en territoire de Rutshuru se poursuivent. La société civile dans la région affirmait que le M23 a encore conquis un village du groupement de Busanza appelé Mungo. Ce village est situé à environ 10 km de Bunagana dans le groupement Djomba. Selon nos différentes sources, le contrôle de ce village s'est effectué sans beaucoup de combats. À l'heure qu'il est, les rebelles continuent de garder toutes ces positions conquises hier vendredi. Il s'agit notamment de Tianzou, Runyoni, Bugusa et Tiengerero. Le porte-parole des opérations Sokola 2 juin ce matin promet de faire le point de la situation des affrontements dans les heures qui suivent. On reste au Nord Kivu. La synergie des luttes anti-mines sensibilise sur le danger de l'explosion des mines terrestres, des restes explosifs de guerre, des engins non explosifs, les bombes artisanales. Toutes ces catégories d'explosifs tuent. À cet effet, le coordonnateur des SILAM appelle la population à la vigilance et de ne pas toucher aux objets suspects, mais plutôt d'alerter les autorités ou les services de déminage. Ces responsables invitent en outre les autorités compétentes à désengorger les camps militaires Katindo situés au cœur de la cité. C'est ce que dit ici Marion Gavo au micro de Bernardine Diambo.
La SILAM demande à toute la population d'être vigilante, de ne pas toucher sur les objets inconnus, mais aussi de dénoncer les suspects. Aux autorités de sécuriser les armes, les munitions et de désengorger les camps ou positions militaires et policières proches des populations civiles. Également, de renforcer le service de sécurité, de contrôle et de détention qualitative ou quantitative d'armes et munitions. La SILAM conclut en disant: si vous voyez les munitions qui ressemblent souvent aux objets que nous utilisons, si vous voyez des sacs abandonnés, si vous voyez des jouets abandonnés, tous les éléments montés avec des fils conducteurs, il ne faut pas les toucher. Alertez les chefs de quartier, alertez les chefs de la police, alertez les services de déminage pour venir traiter le problème.
Pour rappel, le jeudi dernier, dans la soirée, une bombe artisanale a explosé au camp Katindo, faisant ainsi 6 morts et 15 blessés, dont 3 grièvement. Toujours au Nord Kivu, le service de l'action anti-mine des Nations Unies, UNMAS, a débuté hier vendredi une série de formations en faveur des militaires FRDC engagés dans les opérations de traque des groupes armés dans la région de Beni. Cette formation qui vise les militaires de plusieurs unités est axée sur le danger et la détection des engins explosifs improvisés. On écoute le chargé des opérations de UNMAS dans la région de Beni-Boutembo-Loubero qui parle de l'importance de cette série de formations. Jacob Bedidjo est au micro de Martial Papimukeba.
C'est juste dans le cadre des mandats de la MONUSCO. UNMAS a été sollicité pour donner quelques notions de base, quelques connaissances suite aux menaces des engins explosifs improvisés ici dans la région de Beni. Ce sont des militaires engagés sur le front contre les groupes armés. Aujourd'hui, il y a d'abord 20 militaires. On va suivre la formation la semaine prochaine. Et c'est axé sur la détection. Quand ils vont découvrir, par exemple, des engins explosifs improvisés pendant les combats dans la brousse là-bas, quel comportement ils vont adopter, comment faire les rapports, comment ils vont détecter ça et puis comment nous on peut intervenir. Donc c'est dans le cadre des collaborations.
Et la formation vise combien de militaires?
Ça vise beaucoup de militaires parce que c'est la menace maintenant, c'est les bombes artisanales et ils sont piégés dans la brousse, ça fait beaucoup de victimes. La menace est vraiment réelle maintenant au niveau du Grand Nord et au niveau de l'Ituri.
Autre nouvelle, une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des ADF a fait 8 morts vendredi soir à Pakoulou, c'est à 10 km d'Omaber sur la route nationale numéro 4 dans les territoires d'Irumu. Selon des sources concordantes, des hommes armés non identifiés ont également abattu dans la même soirée 2 personnes et blessé 4 autres, dont un militaire des FARDC, dans un quartier au centre commercial de Komanda à 75 km nord de Bunia, toujours en Ituri. Le point avec Isaac Remoyope.
C'est vers 17h local que ces présumés rebelles ADF ont siégé au village de Pakoulou, dont la majorité de la population sont des agriculteurs et des taximens moto qui aident à évacuer les produits vivriers. Ils ont ouvert le feu sur la population. Selon certains rescapés, 3 personnes sont mortes sur place et leurs corps ont été acheminés ce samedi matin à Haute-Mabère. Les corps des 5 autres civils traînent encore dans la brousse, la population étant en débandade. Selon les mêmes sources, ces rebelles ont également pris les 3 motos. L'ONG CRDH déplore cette nouvelle attaque et demande de faire des d'étendre les opérations dans la forêt où se cachent ces rebelles. Toujours vendredi soir, des tirs nourris ont été entendus au quartier BI, au centre commercial de Komanda. Des sources locales indiquent que des hommes armés non identifiés ont ouvert le feu dans une parcelle qui abritait la famille d'un militaire et de son bailleur. Ces soldats répliquaient avec l'appui des policiers du sous-commissariat de BI ainsi que d'autres militaires. Pendant les échanges des tirs, ces hommes armés ont tué des enfants du propriétaire de la parcelle. Ils étaient âgés de 14 et 15 ans. 4 autres personnes, dont un militaire et son épouse ont été blessés. Une panique a gagné la population de ces centres commerciaux. Mais le calme est revenu depuis ce samedi matin où les activités économiques se déroulent normalement. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Et puis en plus bref, dans la province du Maniema, 2 morts et 12 blessés sur le bilan d'un drame survenu ce samedi vers 1h du matin dans la localité Lubao 3, dans le groupement de Benengongo, chefferie de Basongé 1, territoire de Kasongo. En effet, un mur de l'église de 5e Selpa s'est effondré sur les adeptes en pleine prière. Selon l'administrateur du territoire de Kasongo qui livre l'information, la forte pluie qui s'abattait ayant violemment emporté la toiture de l'église est à l'origine du drame. Les blessés sont internés au poste de santé de Benye Lukengo, localité de Lubao 2, affirme Kingombe Kitenge Benoît. L'administrateur du territoire de Kasongo dit déplorer l'absence des membres du conseil de sécurité local pour des enquêtes ainsi que l'assistance sociale. Pénurie du carburant à la pompe sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Le gouvernement va prendre des mesures adéquates qui tiennent compte des recommandations formulées à la suite des réunions avec les acteurs du secteur agroalimentaire et des pétroliers. Cette question a été évoquée au cours du Conseil des ministres d'hier vendredi. On écoute le ministre Patrick Muyaya dans cet extrait proposé par Alain Irung.
Le deuxième point de la communication du Premier ministre a porté sur la pénurie du carburant à la pompe sur l'ensemble du territoire national. À l'instar des autres pays du monde, confrontés aux conséquences du conflit russo-ukrainien, le Premier ministre chef du gouvernement a rappelé au Conseil que la République démocratique du Congo est également exposée aux perturbations dans l'approvisionnement de produits pétroliers avec un risque direct sur les prix de produits alimentaires ainsi que sur le coût des transports des biens et des personnes. C'est ainsi que le Premier ministre a présidé plusieurs réunions de crise avec le ministère sectoriel et les acteurs des secteurs concernés, notamment les secteurs pétroliers et les secteurs agroalimentaires, en vue de permettre au gouvernement de prendre des mesures appropriées qui tiennent compte de pistes de solutions dégagées lors de rencontres susmentionnées. Le troisième point de la communication du Premier ministre a porté sur la reprise effective des activités académiques sur toute l'étendue du territoire national.
Dans le but de rapprocher les populations les plus éloignées aux instances judiciaires, le procureur général du parquet près la cour d'appel du Kwilu, Bernardin Nyami, vient d'installer une nouvelle permanence du parquet près le tribunal de paix de Gungu au secteur de Kilembe. Nous sommes dans la province du Kwilu. Pour la société civile du Gungu, la présence de cette permanence du parquet va jouer un rôle très important, celui de réduire aussi le taux élevé de justice populaire qui règne dans ce coin, faute d'une instance judiciaire proche. Son président, Joachim Kusamba, qui l'a dit, salue cette initiative et pense que les populations vont recourir à cette permanence au lieu d'appliquer la justice populaire. Irène Beaumont.
Cette permanence du parquet près le tribunal de paix de Gungu est installée précisément à Kilembe, chef-lieu du secteur portant le même nom situé à plus de 150 km de la cité de Gungu. Elle va couvrir en moyenne 4 secteurs dont celui de Ngudi, de Kilembe, une partie de Lozo et de Kondo. Pour la société civile locale qui salue cette bonne initiative, la dite permanence qui est ouverte dans le cadre de la justice de proximité va contribuer notamment à la réduction tant soit peu des multiples cas de justice populaire tant décrié dans cette partie du Kwilu. Joachim Kusamba est le président de cette structure citoyenne.
Nous avions toujours les deux que ces coins-là du territoire de Gungu puissent être recouverts par une justice. Absolument, ça va jouer un rôle très important puisque ces gens-là, pourquoi ils recouraient la justice populaire puisque la justice était tellement éloignée. Mais nous pensons que la présence de cette permanence, c'est une décentralisation judiciaire que nous saluons, c'est une justice de proximité pour que les populations les plus éloignées sur les lieux des territoires puissent recourir à cette justice-là au lieu de, à tout moment, appliquer la justice populaire. Nous sommes très contents de ça.
La société civile de Gungu plaide encore pour l'ouverture d'une autre permanence du parquet qui pourra aussi couvrir d'autres secteurs éloignés tels que Mudikalunga, Sezo et autres. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
En Ituri, la prison centrale de Bunia est confrontée au problème de surpopulation à la suite des opérations militaires et des efforts des diverses juridictions pour lutter contre l'impunité en province. Elle héberge actuellement environ 2100 détenus alors que sa capacité d'accueil théorique est estimée à 500 personnes. Selon son directeur, cette situation a un impact sur le budget de cette maison carcérale pour la prise en charge alimentaire des détenus avec plusieurs cas de malnutrition. Camille Nzozi plaide pour le désengorgement de cette prison en vue d'améliorer les conditions des détentions. Il s'exprime au micro d'Ezekiel Mouzalia.
Ce qui est vraiment compliqué, c'est le problème de l'espace par rapport à l'effectif. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 2128 détenus pour 500 places seulement. Vous savez que l'enveloppe qu'on met chaque trimestre par le gouvernement central, ça résout le problème, mais c'est la quantité de la nourriture qui baisse par rapport au nombre. S'il y a une petite quantité que chaque détenu prend une journée, à partir de 14 heures, pour revenir à quoi 14 heures de demain. Et ça impacte aussi la santé. Puis il y a d'autres qui tombent dans les tableaux de malnutrition. C'est ça un peu le défi que moi je suis de relever par rapport à l'alimentation. Donc le travail se fait au niveau de la justice, parce qu'il y a beaucoup de problèmes aussi au niveau de la cité. On ne fait qu'arrêter. Et la prison ne fait qu'à recevoir. Voilà un peu ça.
Autre nouvelle, dans la province de l'Équateur, à Mbandaka, des aveux de membres de coordination du cadre de la société civile de la province. L'annonce a été faite ce jeudi au cours d'une rencontre des membres de la base tenue au parc des jeunes. À la fin, un comité de crise a été mis sur pied par trois de composantes dont la SOCIPEC, la SOCICO et les REDIC. Il a pour mission de conduire la transition et d'organiser l'Assemblée générale élective. Des précisions avec Paul-Richard Malingela.
Ce désaveu est dû à la fin du mandat et au manque de confiance mutuelle. Il concerne toute la coordination, a affirmé le premier vice-président du cadre de concertation provinciale, Barnabé Bongambo. Élu alors par ce père, président du comité de crise, ce dernier justifie le désaveu.
La société civile, ce n'est pas un espace de vengeance où on doit penser que c'est mon affaire. Il ne faut pas aussi que nous, comme acteurs de la société civile, nous soyons considérés comme étant le blocage. J'ai accepté les reproches, je les ai estimés fondés et j'ai adhéré jusqu'à restaurer la confiance des uns et des autres.
Cependant, il a fallu la déclaration du cadre lue la veille par le président contre ce que les signataires ont qualifié d'anarchie et de mauvaise gestion de la province pour voir l'effondrement de cette structure comme un château de cartes. En réaction, Fabien Mungusa, le président du cadre de concertation, désavoué d'y rester en place. Il parle plutôt d'une aventure de mauvais goût et de manipulation politicienne.
Tout ça, c'est une instrumentalisation par les autorités provinciales. Absolument rien de tout ce qu'ils ont fait. Ça n'a aucun effet. Nous allons certainement considérer qu'ils ont quitté le cadre de concertation et nous allons poursuivre le travail que nous avons à faire jusqu'au moment où nous allons organiser la prochaine Assemblée générale.
Notons que le comité de crise présidé par Barnabé Bongambo est composé de 13 membres. Bandaka, Porsche Malengue, la Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Guinée, les quatre personnalités de l'ex-parti au pouvoir, dont l'ancien premier ministre Ibrahima Kassori Fofana et l'ancien ministre de la Défense Mohamed Diané, arrêtés pour, entre autres, des faits de corruption et complicité, ainsi que de détournement des deniers publics, sont renvoyés devant une chambre d'instruction. Les avocats de la Défense contestent le renvoi décidé par le procureur de la Cour de répression des infractions économiques et financières, le procès étant initialement annoncé pour le lundi 11 avril. Et puis, des responsables russes ont accusé samedi 9 avril, le service vidéo YouTube, propriété du géant américain Google, d'avoir bloqué le compte de la chaîne de la chambre basse du Parlement russe Douma TV et ont promis de représailles, rapporte l'AFP.
L'invité.
La ministre nationale du genre, famille et enfants a bouclé ce samedi sa mission à Mbujimayi au Kasaï oriental. Gisèle Ndaya Luseba est venue clôturer officiellement les activités relatives au mois de la femme, édition 2022. Au cours d'une interview exclusive à Radio Kapi, la ministre nationale du genre, famille et enfants fait le bilan du mois de la femme. Gisèle Ndaya Luseba est notre invitée dans cette édition du journal. Elle s'entretient avec Esther Ndalafina. Suivez.
Bonjour Madame Gisèle Ndaya, vous êtes la ministre nationale du genre, famille et enfants. Qu'est-ce qui justifie votre présence ici en Mbujimayi au Kasaï oriental?
Merci beaucoup. Comme vous le savez, déjà un mois, et le mois passé c'était le mois dédié à la femme. Le 8 mars, nous avions célébré la journée internationale de la femme, mais ça s'est passé en Mbandaka. C'est vrai que sur toute l'étendue de la République, il y a eu des activités. Nous avons commencé par des cultes d'action de grâce et aussi l'exposition dans des foires, l'entrepreneuriat de la femme, bien sûr. Mais comme prévu, la clôture du mois de la femme devait se faire au Kasaï. Compte tenu des aléas de transport de l'aviation, j'ai préféré clôturer le mois de la femme ici. Voilà la raison de ma visite à Mbujimayi.
Quel bilan faites-vous du mois de la femme?
Le bilan est largement positif parce que nous avons beaucoup d'avancées en ce qui concerne l'agenda genre et la politique qu'on adapte pour le moment, la politique de la femme pour permettre à la femme de s'épanouir et aussi sur la promotion de la femme. Nous avons commencé par célébrer la journée du 8 mars, juste après, avec une forte délégation. Nous sommes allés à New York pour représenter notre pays dans les différentes conférences, les différentes tables rondes qui étaient organisées à New York. Et à cette occasion, j'ai profité d'échanger aussi avec les différents partenaires et pourquoi pas d'autres ministres du genre de l'Afrique, comme la ministre du Sénégal, qui on a échangé sur la masculinité positive. Au niveau de la RDC, il y a eu des activités dans les différentes structures des femmes. Aussi, le ministère du genre a organisé des conférences. Elle a organisé des activités sur l'autonomisation de la femme et l'entrepreneuriat. Aussi, des reboisements par rapport à notre thème de l'année qui parle de changement climatique et aussi des catastrophes qui en découlent, parce que vous savez que la femme, elle est la première victime par rapport à ces thématiques. Et c'est pourquoi nous avons sensibilisé la femme à protéger l'environnement, à éviter tout ce qui peut nuire à son environnement, parce qu'elle est la première victime. Et pourquoi pas la victime aussi par rapport à la violence sexuelle basée sur les genres.
Par rapport à la thématique même de l'année, l'autonomisation des femmes et des filles dans le contexte de la lutte contre le changement climatique, quelle est la politique de votre ministère par rapport à l'autonomisation économique de la femme?
C'est vrai, c'est un pilier très important que le gouvernement central a porté à mon ministère. Au niveau de mon ministère, nous avons commencé par le renforcement des capacités. Parce qu'aujourd'hui, si nous devons parler du développement d'un pays, du développement d'une ville, moi je pense que la femme est le levier principal du développement. Alors, on commence d'abord par former la femme, donner des moyens à la femme, parce que le ministère du genre, c'est un ministère d'investissement. Quand vous accompagnez la femme dans ce qu'elle fait, dites-vous bien que vous êtes en train de démarrer à ce qui concerne le développement.
Vous avez rencontré différentes responsables des organisations féminines qui ont évoqué autant de difficultés auxquelles la femme kasaïenne est confrontée. Que comptez-vous faire pour que ces difficultés soient surmontées? Donc on parle des femmes qui sont analphabètes aujourd'hui, de la pauvreté, problème de l'accès à la terre, tout ça.
Au niveau du ministère, nous avons une politique que nous avons mise en place. On commence commence d'abord par la sensibilisation, la prise en charge de la femme elle-même. Ensemble avec ma collègue de la formation professionnelle, nous avons mis un plan d'action pour dire que nous devons accompagner la femme qui a raté peut-être la scolarité au niveau primaire, secondaire, même université, même la femme qui est déjà vieille. Donc nous pouvons toujours la récupérer parce qu'elle est utile dans la société. Et c'est comme ça que nous avons organisé des formations et c'est la première promotion. Après, nous reviendrons encore pour continuer des formations et donner des kits de résilience aux femmes pour permettre à ces femmes de se prendre en charge. Vous-même, vous le savez, la femme escassayenne, c'est une femme qui a l'image pauvre. À partir de us et coutumes, la femme ne sait pas parler, la femme ne sait pas s'épanouir, elle ne sait pas s'exprimer, dire ce qu'elle pense, mais elle a des compétences. Donc nous exploitons ses compétences pour l'orienter dans ce qu'elle est et par rapport à ses compétences, lui donner aussi ce qu'elle peut avoir comme travail.
Madame Gisèle Ndaya, je vous remercie.
Je vous remercie aussi, madame.
Voilà, c'est la fin de cette édition mise en onde par Dieudonné Nyangassa, coordonnée par Pierrot et la Meji sous la supervision d'Alain Irung. Était à la présentation Jacques-Yves Molima, Aouta, Missoma Pombadoua. Merci de nous avoir suivis.